Le balado du cours GED 862, rapport de fin d'études, Université de Sherbrooke.
Bonjour, je me présente Lynn Miville, je suis directrice d'accompagnement au Centre de services scolaires de Chic-Choc. Aujourd'hui, je suis en présence de deux directions d'établissement du Centre de services, Mme Nancy Bouchard, directrice d'une école secondaire, et Mme Stéphanie Jonca, directrice adjointe d'une école primaire. Elles vont nous parler d'un outil de gestion qu'elles ont développé dans le cadre de leur maîtrise exécutive à l'Université de Sherbrooke. Cet outil s'adresse aux directions d'établissement et aux professionnels de l'éducation qui souhaitent améliorer le service à l'élève HDA. Tout d'abord, pouvez-vous me décrire le contexte et la problématique qui vous a amené à créer votre outil de gestion?
Stéphanie et moi, là, on vivait la même réalité. On est arrivés au même constat. Nos élèves HDA, on trouvait qu'ils ne progressaient pas suffisamment, malgré toutes les mesures qu'on mettait en place et toutes les mesures d'adaptation et les services offerts à l'élève. Malgré les plans d'intervention, tout ça, là, on se rendait compte que la progression n'était pas optimale. Donc, on a voulu tenir compte de leur profil individuel là, pour pouvoir mieux comprendre la réalité de ces élèves-là. Il y avait un autre enjeu important aussi qui concernait les données. On avait accès à des résultats scolaires, mais on se rendait bien compte que ces données-là n'étaient pas suffisantes pour prendre nos décisions. Donc, on sait qu'une donnée seule, là, ça ne veut rien dire. On avait besoin d'aller plus loin.
C'est sûr que ça soulevait des incohérences dans nos pratiques. On ne trouvait pas normal qu'un élève en échec, par exemple, en français, en deuxième année, ben, il n'ait pas accès au service d'orthopédagogie parce que le service était saturé. On ne trouvait pas normal non plus qu'un élève en échec, par exemple, en mathématiques en secondaire 3, ait les mêmes moyens à son plan d'intervention depuis 2 ans. C'est sûr que toutes ces questions-là nous ont amené à reconnaître qu'on devait mieux comprendre et exploiter nos données pour offrir de meilleures interventions, des interventions qui étaient plus justes, plus ciblées et plus adaptées aux besoins de nos élèves.
Qu'avez-vous créé exactement pour répondre à votre besoin?
Bien, comme on avait besoin de données qualitatives, on s'est créé un portrait qui vise à mieux comprendre les besoins des élèves. Et avec ce portrait-là, on est capable d'aller identifier les facteurs qui influencent leur réussite. Donc, soit les facteurs personnels, les facteurs familiaux et sociaux, ainsi que les facteurs scolaires. C'est principalement un document Excel là, qui nous permet de dresser le portrait de l'élève. Cette démarche-là a été développée, là, dans notre, comme tu l'as nommé tantôt, là, dans le cadre de notre cours de maîtrise à l'Université de Sherbrooke. C'est selon l'approche de recherche de la science de la conception de Evner. Cette approche-là vise à soutenir une prise de décision par une analyse complète et structurée de chaque situation. Ça permet maintenant à nos équipes là, d'avoir une vision commune, de mieux comprendre les besoins de nos élèves et de prendre des décisions qui sont plus éclairées, toujours, bien sûr, dans l'objectif d'améliorer la réussite de nos élèves.
Toi, Stéphanie, comment utilises-tu le portrait d'élève dans le cadre de ton travail?
D'emblée, j'ai envie de vous dire qu'on ne sera pas la seule école au Québec à nommer que les ressources sont insuffisantes, qu'on veut plus de services, on veut plus d'heures en orthopédagogique, plus de soutien. On voudrait un meilleur ratio élève. La situation étant ce qu'elle est, bien, on doit prendre souvent nos décisions avec les ressources et les données qu'on a. Dans mon cas, on ne se le cachera pas, offrir 2 périodes de 27 minutes par 9 jours à des élèves, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment pas en saupoudrant le service pour se donner une bonne conscience qu'on en offre vraiment un. Quand j'ai ressorti les statistiques de mon école, je voyais que les élèves qui avaient accès au service d'orthopédagogie, ben leurs résultats n'augmentaient pas nécessairement. J'observais même parfois une baisse des résultats là, à certains niveaux. Donc, je me suis dit, ça fonctionne pas, il faut agir maintenant. Donc, j'avais envie d'avoir un modèle de service qui était efficient puis qui prônait les bonnes pratiques. J'avais envie de mieux connaître mes élèves, de faire le portrait le plus précis possible d'eux pour que ces enfants-là, dans le fond, aient un service de qualité. Ensuite, je me suis mis à faire des recherches. Trouver des écrits, je te dirais que ça n'a pas été super simple là, en lien avec le service d'orthopédagogie au Québec. Mais j'ai des auteurs comme Boilly et ses collaborateurs qui m'ont quand même nourri au fil de mes recherches. Ces auteurs-là sont venus définir c'était quoi un service de qualité de palier 2. Dans leur cas, on parlait d'offrir des blocs de 8 à 10 semaines d'intervention. On parlait de 3 à 5 rencontres par semaine, avec des sous-groupes qui allaient entre 3 à 5 élèves maximum. Puis on parlait d'une durée d'intervention de 30 à 60 minutes. Avec notre outil de gestion, ensuite, bien, on est venu complémenter notre offre de services pour mieux cibler nos élèves. Puis ça, bien, on l'a fait d'une façon quand même assez bonne. On a développé un tableau Excel pour avoir les résultats scolaires. On a fait un portrait des élèves avec les seuils les plus fragiles et critiques. Puis j'ai aussi collaboré avec mes orthopédagogues pour créer un tableau complémentaire sur la répartition du service d'orthopédagogie. Avec tout ça, ben, je me permets de rencontrer mes orthopédagogues 4 fois par année pour réguler le tout, faire un bilan. Maintenant, je suis en mesure de me dire que je me sens plus équipée. J'ai les bonnes données pour faire les bons choix. Je suis capable de dire que mes orthopédagogues offrent une qualité de service. Puis je suis aussi capable de dire que mes orthos sont capables de cibler les bons élèves. Est-ce que c'est parfait? Pas encore. Mais je suis quand même fière des pas qu'on a fait dans l'outil. Dans l'utilisation de nos données, parce qu'on est capable de les trianguler maintenant. Fait que maintenant, quand je dois faire un choix, ben j'ai les résultats des matières de base en mathématiques et en français. J'ai accès aux tests de dépistage. Je connais la situation familiale de l'enfant, son taux d'absentéisme. Parce qu'on va se le dire, un élève qui n'est pas présent à l'école, ce n'est pas nécessairement de l'orthopédagogie qui a de besoin, mais c'est d'être présent à l'école. Fait que le portrait vient vraiment définir un peu plus le besoin de chacun d'eux. Je suis maintenant capable d'offrir une fréquence, une durée d'intervention adéquate, puis ça, je trouve que ça a un réel impact sur mes élèves. Je suis aussi capable de dire que les élèves qui viennent en orthopédagogie, maintenant, ils progressent de façon plus significative. Puis mes orthopédagogues, ben, elles ont maintenant l'impression de faire ce dont elles doivent réellement faire.
Très intéressant. Et toi, Nancy, comment se traduit l'utilisation du portrait de l'élève dans le cadre de ton travail?
Dans mon école, on avait un enjeu de réussite en mathématiques, spécialement pour une cohorte de deuxième secondaire. Les élèves de cette cohorte répondaient pas aux attentes, malgré la mise en place de nos plans d'intervention. Fait que là, à partir de là, on s'est posé des questions. On s'est dit, est-ce que nos besoins sont vraiment bien identifiés? Et puis, est-ce que nous répondons bien aux besoins de nos élèves là, dans nos plans d'intervention? Donc, pour mieux comprendre la situation de ces élèves, on a vraiment utilisé le portrait là, qui va au-delà des résultats scolaires. Ça nous a permis vraiment là, d'obtenir une vision claire et objective d'un élève en identifiant les facteurs influents, comme les diagnostics, le contexte familial ou encore les résultats scolaires là, depuis le primaire. Cette vision globale-là nous permet maintenant de mieux comprendre la situation d'un élève dans toute sa complexité. C'est un outil qui est quand même facile à utiliser. C'est un tableau des résultats en mathématiques et un portrait pour chaque élève en situation de vulnérabilité. Cet outil-là là, soutient directement la rédaction de nos plans d'intervention maintenant en nous aidant à cibler les objectifs qui sont beaucoup plus précis et à intégrer dans nos plans d'intervention des moyens adaptés. C'est particulièrement bénéfique là, pour le suivi des élèves HDA en mathématiques. Maintenant, en triangulant les données quantitatives et qualitatives, on est en mesure de prendre des décisions qui sont beaucoup plus éclairées et surtout spécifiques à chaque élève. Par exemple, pour certains de nos élèves à mon école, on a modifié leur parcours en mathématiques, c'est-à-dire qu'on leur offre maintenant un enseignement adapté à leur profil. Pour d'autres, on a procédé à des évaluations complémentaires ou encore on les a référés à des professionnels là, parce que les difficultés étaient plutôt d'ordre psychosocial. L'utilisation de l'outil a permis aussi d'observer des changements à la fois quantitatifs et qualitatifs. C'est-à-dire que certains élèves ont vu, bien sûr, leurs résultats augmenter. Hein, c'était ça le point de départ, grâce aux adaptations puis aux modifications qu'on a apportées. Mais on a aussi remarqué là, que pour certains élèves, là, il y avait un sentiment de compétence accru et un taux d'absentéisme moins élevé, ce qui n'est pas négligeable. En résumé, là, le portrait, là, c'est devenu pour notre équipe là, un véritable outil d'aide à la décision. Ça permet de passer d'une perception qui était plutôt générale à une compréhension maintenant qui est précise des besoins et qui permet d'agir de façon beaucoup plus stratégique pour soutenir la réussite de nos élèves.
Eh bien, mesdames, je comprends que ça fait déjà quelques mois que vous utilisez les portraits d'élèves pour mettre en place des services adaptés aux élèves. Quelles sont les limites de votre outil d'aide à la décision?
Oui, bien sûr, l'outil présente quand même certaines limites, là, dont la saisie des données quantitatives, parce que ça peut être quand même exigeant. On doit entrer tous les résultats de chaque élève là, dans le tableau Excel nous-mêmes. Donc, c'est un travail qui demande du temps. Donc, le temps requis pour compléter les portraits aussi en équipe, c'est un autre enjeu, parce que nos horaires, on ne se le cachera pas, là, sont quand même chargés. mais il faut prendre le temps de s'asseoir ensemble pour échanger puis consigner l'information, là. C'est vraiment important. Et puis, il y a aussi, là, comme il y a les professionnels qui font partie des équipes, qui font partie des échanges, bien, la disponibilité de nos professionnels, là, c'est un autre enjeu, mais c'est quand même essentiel, là, à la démarche.
Puis moi, dans mon cas, bien, c'est sûr que ça demande un moment d'adaptation à tous, tu sais, juste de se familiariser avec l'outil. Les orthos, ça leur a pris quand même un certain temps, puis on tend toujours à s'améliorer là-dedans. Puis c'est sûr que, comme Nancy l'expliquait, ça prend un temps de saisie. Mais je considère qu'on finit par en gagner au final. Tu sais, quand je suis en plan d'intervention, moi, mes portraits sont ouverts. Je les alimente au fur et à mesure. Puis j'ai vraiment un accès direct au profil de chaque enfant sans nécessairement devoir relire 2 ou 3 rapports professionnels là, avant ma rencontre. Fait que d'emblée, quand mon portrait est ouvert, bien, je le vois. Ah, celui-là, il a été évalué en neuropsie à l'été passé. Il est ressorti tel diagnostic. Donc, je n'ai pas besoin d'aller refouiller aussi longtemps. Donc, c'est sûr que ça demande de la rigueur, une collaboration de tout le monde. Mais pour ça, j'ai vraiment une équipe là, merveilleuse là, qui contribue.
Qu'est-ce qui faciliterait votre travail dans l'utilisation des données?
Ce qui faciliterait le travail, là, c'est sûr que ce serait d'automatiser la saisie des données. Ça viendrait vraiment réduire la charge administrative qu'on s'est donnée, Nancy et moi. Puis c'est sûr que ça limiterait certaines erreurs. Là. On est quand même des humains. Imaginez-moi, dans mon cas, une cohorte de 75 élèves en deuxième année, quand je dois rentrer tous les résultats, bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de risque zéro. Si Mosaic parlait directement à notre fichier Excel, là, ce serait vraiment wow, mais ça, on y travaille. Sinon, bien, d'informatiser puis de centraliser les données, ben c'est sûr que moi, j'ai commencé l'an dernier, puis depuis tout ce temps, ben je reçois des nouveaux rapports et tout ça, donc les profils s'alimentent de plus en plus, mais n'empêche que c'est pas nécessairement fait pour mes 400 autres élèves. J'ai commencé avec une cohorte, puis de plus en plus, là, j'en ajoute au fur et à mesure.
Finalement, qu'est-ce que l'utilisation des portraits d'élèves a apporté dans votre gestion et dans les pratiques pédagogiques de votre équipe? Est-ce que vous avez noté une amélioration au niveau de la réussite des élèves?
Dans mon cas, moi, ça a vraiment eu des retombées positives. Là. C'est vraiment devenu un levier important pour faire évoluer les pratiques chez nous. On a juste à penser à un élève qui n'a pas nécessairement accès au service d'orthopédagogie parce qu'on a pris la décision que ce n'était pas ça qui était le mieux pour lui à cet instant-là. Bien, il faut quand même se pencher à qu'est-ce qu'on va faire pour cet élève-là. Oui, on a la conception universelle de l'apprentissage, la flexibilité pédagogique, mais il faut penser à d'autres mesures comme le tutorat, la récupération ou même des fois le co-enseignement parce que les orthos, quand ils font du niveau 2, bien, des fois, ça peut être plus profitable et bénéfique de se présenter en classe, faire des ateliers directement avec les enseignants. On touche un plus grand nombre d'élèves, puis ça bénéficie à tout le monde, finalement. Je dirais aussi, à un autre niveau, ça a aussi renforcé la collaboration au sein de l'équipe. Je sens qu'on a vraiment une vision plus commune de notre besoin. Les enseignants connaissent maintenant les sites d'intervention de nos orthopédagogues. Le cadre de notre service là, est vraiment là. On a mis nos balises, puis le rôle de chacun là, est vraiment mieux défini. Si je me ramène au tout début, quand on a dû bâtir cet outil de gestion-là, j'avais vraiment une intention claire, moi, pour mon outil. Là. J'avais plus envie de faire les 100 pas de mon bureau au secrétariat. Je voulais vraiment avoir tout à portée de main. Là. Je voulais avoir les informations en direct, pas devoir fouiller dans des dossiers. Donc maintenant, ben, c'est plaisant parce que, comme je le disais tantôt, j'ai accès aux résultats des élèves, leur dépistage, leur évaluation, leur diagnostic. Tu sais, j'ai vraiment le pedigree de l'enfant. Là. Puis quand je fais des plans d'intervention ou des régulations avec mes orthos, ben, j'ai tout en main pour prendre les meilleures décisions. Puis je pense que c'est ça le plus important.
Concrètement, là, au niveau des suivis des élèves, là, on est vraiment passé des résultats inscrits au bulletin comme indicateur à la fin de chaque étape. C'est ce qu'on regardait habituellement. Mm-hmm. Et là, maintenant, on est passé à un tableau des résultats qui nous permet de suivre la progression des élèves avec des portraits qui sont mis à jour régulièrement. Auparavant, il n'y avait aucune analyse spécifique qui était réalisée dans notre cas avant l'élaboration d'un plan d'intervention. Maintenant, bien, on réalise un portrait complet de l'élève en considérant tous les facteurs qui peuvent influencer sa réussite. On est aussi passé de moyens généraux dans nos plans d'intervention à des moyens qui sont beaucoup plus spécifiques, qui sont orientés vers les besoins réels des élèves. Finalement, bien, il y a un travail de collaboration, comme ma collègue l'a nommé, accru, car il y a beaucoup plus de personnes qui sont impliquées là, dans l'analyse et la prise de décision. On observe déjà des impacts positifs, notamment bien, une meilleure cohérence des interventions, ce qui contribue graduellement à améliorer la réussite des élèves.
Et si vous vous permettiez de rêver?
Oh là là, la belle question, ma chère Lynn. Imagine un genre de clic santé-éducation. Peut-être que certains ont déjà envie de me lancer des roches, là. Mais imaginons que chaque enfant ait son dossier scolaire santé à jour en direct. On prend un professionnel qui dépose une évaluation. Bien sûr, on a l'autorisation de consulter. Il dépose directement dans le dossier de l'élève et en direct, les professionnels d'éducation qui gravitent autour de l'enfant ils ont accès à la partie de l'éval qui les concerne. Imaginez la charge administrative qu'on vient d'éliminer. On ne parle plus d'un courriel qui est envoyé à un puis transféré à l'autre, là. On parle d'un rapport qui a été fait par un pro de la santé, mais qui est accessible directement par le pro de l'éducation. Puis ça, bien, c'est vice-versa. Combien de fois dans une année mes enseignants doivent remplir des rapports ou des formulaires pour décrire la situation d'un élève? Imaginons qu'un professionnel de la santé a besoin des moyens qu'on a mis en place au pays d'un élève, bien, il pourrait lui aussi y avoir accès directement. Fait que je pense qu'il y a parfois du beau dans les rêves. On va continuer d'envoyer tout ça dans l'univers, puis sait-on jamais où tout ça se rendra.
Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour le partage. Je suis convaincue que votre outil de gestion pourrait assurément intéresser d'autres collègues. Félicitations.
Merci. Merci.